Fabrice Méloman, Jacques Nouvier, Éric Rouillet.
Bonjour à tous. Aujourd'hui sur RCF Notre-Dame, l'émission Tous Mélomanes est consacrée à un chef d'orchestre de légende, le chef argentin Carlos Paita. Et je ne suis pas seul. En effet, le label Le Palais des Dégustateurs, fondé par Éric Rouillet, vient de publier plusieurs enregistrements tout à fait extraordinaires de ce chef et avec certains inédits. Éric Rouillet est avec moi et nous avons la grande joie d'accueillir, pour en parler, le metteur en scène Alexandre Paita, qui est le fils du chef d'orchestre. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Éric.
Bonjour.
C'est à vous Éric pour la première question.
Merci. Bienvenue Alexandre Paita.
Merci Monsieur Éric Rouillet.
Vous arrivez de Genève, spécialement pour notre émission. Nous sommes très reconnaissants de cela.
C'est moi. Merci.
Et je lis dans le premier ouvrage que vous ne connaissez pas encore, consacré à votre père, à paraître d'ici quelques semaines. Réputé à tort pour ses excès, Carlos Paita était pourtant le musicien le plus fidèle qui soit, comme le plus respectueux des intentions des compositeurs. Il ne cessait de s'interroger sur la nature de la musique elle-même, cet art si étrange, si métaphysique. Et le philosophe André Hirt, d'intituler son livre « Carlos Paita dans le fracas d'un son plein d'épouvante », comme pour nous ramener à la Divine Comédie de Dante. Alors, qui était donc ce maestro de légende qui a conçu, pour moi, sa carrière comme une chorégraphie dramatique, loin de tout compromis, afin de n'exprimer que l'urgence de l'essentiel?
Comme M. André Hirt le dit, c'est une partie de la Divine Comédie, si je ne me trompe pas, un extrait du chapitre 9. En effet, je pense que toute sa musique, ses concerts, ses enregistrements, ils sont basés sur une existence. Une existence qui fut la sienne, remplie de drames personnels, des drames des autres, des drames aussi qu'il a vécu intensément, les drames des compositeurs. Que ce soit les drames de Bruckner, les drames de Mahler, de Beethoven, et j'en passe. Donc, j'adhère totalement à votre pensée en disant quel est ce drame. Mais c'est un drame qui est vécu, qui n'est pas forcément vécu dans le moment, mais qui est vécu à travers toute la musique des musiciens qu'il a interprétés.
Oui, donc là, il assimile la constance de sa carrière de chef à une existence globale.
Tout à fait.
Il n'interprète pas une œuvre à un moment donné, il habite cette œuvre toute sa vie.
Absolument. C'est pour ça que dans les programmes de mon père, ce sont des programmes, des concerts, dont il a mis des certains temps pour créer le programme qu'il allait donner en concert. Ce qui lui a permis de travailler sur ses musiques et en même temps de vivre intensément ses musiques comme si c'était les siennes.
Et il vous parlait de son engagement, son investissement, où c'était un domaine très confidentiel pour lui.
Alors, je pourrais en citer beaucoup d'exemples de ce que pour lui voulait la signification de certaines mélodies ou de certains moments d'une symphonie, peu importe laquelle. Je me souviens par exemple de Mort et Transfiguration de Strauss, où il me disait, à un certain moment, il y a un certain crescendo dans cette musique où il me disait « ça, c'est le père et le fils qui vont se rencontrer dans l'au-delà ». Donc forcément, avant de dire des choses comme ça, ce sont des moments qui sont vécus intensément, soit inspirés par la musique, soit inspirés par sa propre vie qui le regarde à lui en tant qu'artiste, bien sûr.
Il faut que nos auditeurs comprennent exactement ce qu'on veut dire quand on parle de la manière de diriger de Carlos Paita. Et je vous propose d'écouter la fin de la célébrissime 5e symphonie de Beethoven. Et je dirais, là, comme dans beaucoup d'autres cas, on a vraiment l'impression de redécouvrir l'œuvre.
Thank you.
Sur RCF Notre-Dame, nous venons d'entendre la fin du quatrième et dernier mouvement de la cinquième symphonie. La cinquième symphonie célébrissime de Ludwig van Beethoven par le Philharmonic Symphony Orchestra sous la direction de Carlos Paeta. C'est un disque qui est sorti au Palais des Dégustateurs. Alors, je le disais tout à l'heure, j'ai souvent l'impression, quand j'écoute un disque de Carlos Paeta, de redécouvrir l'œuvre que je croyais connaître. Et par rapport à tout ce que votre père, Alexandre Paeta, tout ce que votre père apporte à la musique. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que c'est à cause de détails qui fait apparaître que les autres avaient oublié, ou est-ce à cause de la fluidité des tempis, je dirais un petit peu comme Furtwängler, qui était d'ailleurs un peu une de ses idoles, finalement. Mmh. Quel est votre avis là-dessus?
Alors, ses idoles, Furtwängler comme Toscanini, bien sûr. Alors, je pense que chez mon père, il y avait l'idée et le sens de la fluidité des instruments et des groupes de musiciens dans l'orchestre. C'est-à-dire qu'il avait cette oreille qui permettait de distinguer correctement les basses, les violoncelles, les violons, les percussions, les hautbois, les bois, etc. Je sais pas comment expliquer. C'est comme s'il y avait plein de sons qui étaient dans son cœur, dans son âme, et qu'à un moment donné, il fallait rassembler le tout. Quand vous écoutez, c'est mon ressenti personnel, bien sûr, quand vous écoutez une musique dirigée par mon père, vous allez entendre tous les groupes de musiciens. Il n'y a pas des sons qui sont brouillés ou noyés par d'autres sons. Donc c'est une parfaite connaissance et sensibilité des groupes de musique pour enfin créer, évidemment, ce que le compositeur a demandé.
Oui, mais le tempo qui fluctue quand même beaucoup souvent.
Bien sûr. Alors, vous savez, souvent on me pose cette question par rapport au tempo de mon père, et moi souvent je réponds une chose, je ne peux pas l'expliquer. La chose que je peux dire, c'est que les personnes en général, vous, Eric, moi, nous écoutons des musiques, nous les écoutons, nous la ressentons au plus profond de nous. Quel est ce ressenti que vous avez quand vous écoutez ou vous entendez quelque chose? Je ne sais pas. Mais quand vous avez un musicien, en l'occurrence un chef d'orchestre, qui vous amène ou vous ramène à votre propre sentiment en écoutant cette musique du compositeur, on ne peut être qu'heureux. Comment, pourquoi, je ne pourrais jamais le répondre.
Voilà.
Mais pour moi, c'est très simple. Voilà.
Alors, on écoute un autre extrait et je vous propose le début du deuxième mouvement de la première symphonie, dite symphonie Titan de Gustav Mahler. Thank you. Sur RCF Notre-Dame, nous venons d'entendre de Gustav Mahler un extrait de la première symphonie dite Titan, donc le début du deuxième mouvement, par le Royal Philharmonic Orchestra, sous la direction de Carlos Paita. C'est toujours au Palais des Dégustateurs. Et une question pour vous, Eric. Votre label, Eric Rouillet, ce label qui porte le nom du Palais des Dégustateurs, a reçu le 18 mars de cette année, à Bamberg, un prix spécial de l'ICMA, International Classical Music Awards, pour les CD de Carlos Paita. Alors, expliquez-nous, comment ça s'est passé?
Bah, écoutez, c'était un moment d'une puissance de reconnaissance rare de la part de la presse musicale européenne indépendante, qui était représentée par une vingtaine de journalistes de 15 pays différents dans toute l'Europe. C'est un prix particulièrement important qui débouche sur une communication dans le monde entier aujourd'hui. Et je vous ai vu, Alexandre Paita, puisque vous étiez présent bien évidemment, bouleversé pendant quelques minutes. Et l'ovation réservée à votre père, évidemment à titre posthume, fut quand même un moment de célébration d'une dimension unique. Et vous avez vécu ce moment avec recueillement. Vous sembliez très ému, mais également, j'ai trouvé soulagé. Il y avait un soulagement, quelque part en vous.
Vous avez raison, Eric. C'était pour moi, c'est un moment privilégié pour moi, où était présente aussi ma sœur Elisabeth. Pourquoi ces moments aussi importants pour moi? Simplement parce que il y a une reconnaissance aujourd'hui des interprétations de la musique de mon père par ses enregistrements publiés par le Palais des Dégustateurs. Et pourquoi j'étais touché? Tout simplement parce que cette reconnaissance, comme je l'ai dit à cette date, on pourrait imaginer qu'elle est tardive, qu'elle est peut-être tardive pour moi, mais c'est pas grave. Ça pourrait être tardive pour mon père, dans le sens que cette reconnaissance, 15 années après son décès, me paraît-il, vient un peu trop tard. Trop tard pourquoi? Parce que la musique de mon père, pendant plus de 50 ans, aurait pu être portée au public à ce moment-là qu'attendre les décès. Mais comme je l'ai dit, souvent c'est le cas. Souvent, c'est très souvent c'est le cas. On ne reconnaît les choses ou les valeurs après qu'un artiste, un génie, un compositeur, un homme de théâtre est décédé, après on comprend. Mais pas pendant. Pas pendant leur existence. Et c'est ça qui est dommage.
Alors, on va quand même continuer notre écoute de Carlos Paita, votre père. Et il a surtout dirigé de la musique du 19e siècle, mais pas seulement. Après Beethoven et Mahler, moi j'aimerais vous faire entendre un extrait de la 9e symphonie de Bruckner, qui est vraiment extraordinaire. Et c'est moi, j'ai beaucoup hésité, je vous cache pas, avant de choisir un des mouvements ou un extrait des mouvements. Et j'ai préféré vous faire entendre intégralement le deuxième mouvement, le Scherzo. C'est une version de concert enregistrée en 1992 et qui n'avait jamais été publiée précédemment.
Thank you. Thank you.
Sur RCF Notre-Dame, nous venons d'entendre le deuxième mouvement, Scherzo, extrait de la symphonie numéro 9 d'Anton Bruckner par le Philharmonic Symphony Orchestra sous la direction de Carlos Paita, et c'était une nouveauté du Palais des Dégustateurs. Et...
Tous mélomanes, Jacques Nouvier, Éric Rouillet.
Et je crois justement, Éric, que vous voulez ajouter quelque chose pour cette neuvième.
Oui, Alexandre Païta, concernant cette neuvième de Bruckner, il s'agit d'une vision exacerbée, d'une noirceur stupéfiante, presque hémorragique, j'ai l'habitude de dire, qui ressemble à un champ de bataille. Et d'ailleurs, il y a un journaliste aux États-Unis qui précise, avec Carlos Païta, il n'y a aucun prisonnier. Pour parvenir à une telle sorte de violence, à une telle intensité, qui pousse l'orchestre dans une dimension inconnue jusqu'alors, votre père a dû entretenir une relation obsessionnelle avec cette œuvre. Il n'y a aucun mysticisme. Il avance le glaive à la main. Comment a-t-il pu aborder cette symphonie de cette façon ?
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière et ce qui a fait qu'il a fait cette neuvième de Bruckner dans cet état d'esprit. À savoir que je me dois de dire que c'est la dernière musique que Maestro Païta a entendue. Alors, comme je le disais, il y a deux manières de concevoir cette interprétation de par le temps. On peut imaginer que cet enregistrement, je ne me souviens pas de quelle date, dans quelle date ça a été fait, ce concert. Mais il y a quelques années dans l'existence de Païta qui ont passé entre l'une et l'autre. Il y a ces côtés, effectivement, dans ce concert, extrêmement violent, extrêmement noir, surtout dans le dernier mouvement, mais que je ne peux pas dire qu'il est noir. J'ai envie de dire que c'est comme une musique et un sentiment de plénitude. Je me souviens l'entendre dire, voilà, avec ce dernier mouvement, j'ai l'impression que l'esprit, l'âme, elle flotte dans l'espace. Donc, dans les dernières années de la vie de Païta, ces choses sont venues à mes oreilles. Alors on peut concevoir une certaine forme de noirceur, pourquoi pas. Moi j'ai juste envie de dire, au départ, dans son travail, c'était une lutte totale, avec beaucoup de violence, comme on vient de l'entendre. On entend les cors, les tubas, etc. Pour aller quelques années plus tard, à se dire, voilà, avec ce dernier mouvement, voilà, je suis apaisé, ça a été une bataille. Et les pas noirs, c'est « il fallait y aller et on y va ». Maintenant, on peut se reposer. Et il y a cette plénitude, ce silence qu'on peut retrouver et qu'on ne trouve que, certainement, dans l'espace, loin de nous. Voilà.
Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reste un petit peu sur cette idée de musique comme ça, tout à fait au bord de l'au-delà, avec la sixième symphonie de Tchaïkovski. Et je vous propose le dernier mouvement, le Lamento, de cette symphonie pathétique, du moins le début. Sur RCF Notre-Dame, nous venons d'entendre de Piotr Ilitch Tchaïkovski le début du quatrième mouvement, le dernier mouvement, Adagio Lamentoso, de la sixième symphonie, dite pathétique, par le National Philharmonic Orchestra, sous la direction de Carlos Paita, et c'est toujours un disque du Palais des Dégustateurs.
Oui, Alexandre Paita, on va parler un peu de vous, brièvement, avec beaucoup de pudeur, je sais que vous êtes très pudique. Vous êtes un homme de théâtre renommé, et vous dirigez d'ailleurs une compagnie professionnelle qui s'appelle Studio Théâtre Compagnie Alexandre Paita à Genève, avec notamment une importance accordée à Rimbaud et
Shakespeare, Lorca.
Voilà. Est-ce que votre jeu possède un rythme, une musicalité, une sonorité qui marquerait l'influence de votre père comme une sorte de témoignage indéfinissable qui vous imprégnerait peut-être malgré vous?
Forcément. Et là, on, bien entendu, ça mettrait des heures pour parler de ça, mais je vais essayer de le résumer très vite. Et je me réfère surtout au théâtre, à la musique. Je ne conçois pas un théâtre sans musique, et je ne conçois pas une musique sans l'art dramatique. Voyez-vous, je pense que si je prends l'exemple, mon père aurait pu être un bon acteur, un grand acteur. Pourquoi? Parce que les compositeurs qu'il a interprétés, il s'est fait certainement de l'idée, son imagination a inspiré Paita, qui s'est traduit dans la musique. Moi, personnellement, je m'inspire de la musique pour mes créations au théâtre. C'est un vice-versa. D'autant plus que dans la forme de l'art dramatique que je travaille, elle va à nos tripes. C'est pas un jeu intellectuel, c'est un jeu vécu. Ce sont des drames qui vous possèdent. Donc, la musique que j'entends de par mon père ne peut être qu'une inspiration pour mes propres créations au théâtre. Et je voudrais juste conclure en disant, c'est normal. Quand je suis né, j'étais déjà en train d'écouter dans le ventre de ma mère de la musique.
Alors, on va écouter quelque chose qui est absolument dramatique. C'est une remarquable version de la Symphonie Fantastique de Berlioz, avec le quatrième mouvement, la Marche au Supplice, bien sûr. Sur RCF Notre-Dame, nous venons d'entendre le quatrième mouvement, Marche au supplice, extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, par le London Symphony Orchestra, sous la direction bien sûr de Carlos Paita, un enregistrement du Palais des Dégustateurs. Alors, on a beaucoup parlé de musique, mais j'aimerais aborder avec vous, Alexandre Paita, l'aspect humain. Quel homme était votre père ?
Alors, vous parlez d'homme ou de l'artiste ?
Ah, de l'homme, de l'homme.
De l'homme. Qu'est-ce que je pourrais dire ?
Est-ce qu'il était colérique ? Est-ce qu'il était... Enfin, je sais pas.
Oui, oui. Bon, ce sont de... C'est, quand vous posez, quand vous dites ces mots-là, et ces mots me semblent petits, dans le sens que ça serait trop facile de dire il était colérique ou il ne l'était pas. Non. Je pense que mon père a vécu un peu comme un sauvage où les lois de ce monde, quand je dis les lois de, que nous connaissons tous et toutes, ça n'était pas, il ne s'assouplissait pas à ces lois. Ça veut dire qu'il avait son chemin de vie, il faisait quelque part ce qu'il avait envie de faire, et le reste, ça ne l'intéressait pas. Il n'avait pas, personne ne pouvait l'arrêter dans ce sens.
Ok. Alors, bon, Carlos Paita n'était pas très attiré par la musique contemporaine. Il a cependant enregistré de la musique de son siècle, hein, je pense en particulier à Janáček, mais aussi à Ginastera, un compositeur argentin comme lui. Et quelles étaient les idées de votre père par rapport à la musique de son propre pays ?
Alors, en aucune manière je pourrais répondre à cette question, même si je devrais, mais je ne peux pas parce que je ne le sais pas. Pourquoi je ne le sais pas ? Parce que mon père est parti en 1968-67 de l'Argentine, il avait 36 ans, moi je n'avais que 10, donc on n'en a presque jamais parlé de ça.
Alors, je vous propose d'écouter néanmoins un extrait du ballet Estancia de Ginastera. En fait, c'est une suite qui a été tirée du ballet, qui est une œuvre composée en 1941 ou 42. Alors bon, je le dis franchement, le son est loin d'être parfait, mais il y a une telle vie dans ce morceau qu'on a voulu vraiment la partager avec vous. Et voici le Malambo, qui est la danse finale. Eh bien, sur RCF Notre-Dame, nous venons d'entendre d'Alberto Ginastera la danse finale, Malambo, extraite d'Estancia, dirigée par Carlos Paita. Alors, c'est un enregistrement inédit pour RCF que nous a apporté Alexandre Paita. Merci Alexandre, vraiment, c'était très sympa. Voilà, et puis on arrive malheureusement à la fin de l'émission. Et donc, je repasse la parole à Eric.
Oui, merci. Et Alexandre Paita, nous devons, je pense, aborder ce coup de tonnerre dans l'histoire de l'interprétation de la 6e symphonie de Mahler et de la vie de maestro de votre père. Nous sommes en 1997 avec l'Orchestre Philharmonique de Liège. Que se passe-t-il ce jour-là, puisque plus jamais votre père ne dirigera un orchestre?
Alors, c'est déjà le dernier concert, effectivement, de mon père en 97 à Bruxelles et à Liège, si je me souviens bien. Mais je ne comprends pas très bien ce que vous voulez me dire en me disant « qu'est-ce qu'il passait ce jour-là » Que voulez-vous dire?
C'est une interprétation qui a la même dimension que la 9e de Bruckner, qui possède un sens particulier pour moi par rapport à tous les autres enregistrements, à toute sa discographie. Elle a un caractère qui va au-delà du tragique. Et j'ai fait écouter à des amis qui me disaient, mais en fait, le vrai sens du tragique, c'est de croire en la vie. Et on sent qu'il y a quelque chose de très douloureux, qui dépasse le tragique dans l'interprétation de votre père.
Si je devrais aujourd'hui séparer les mouvements dans la 6e symphonie de Gustav Mahler selon le programme avec cet orchestre, à savoir que le deuxième mouvement c'était le troisième et à l'inverse, ce sont des étapes de vie. Voyez-vous, vous, si vous prenez le deuxième mouvement très lent, ces vagues dans la mer, ces passions, tous ces moments d'existence vécus, et que tout d'un coup on se rend compte, puisque je me souviens très bien, j'entends encore mon père me dire, en citant le mot tragique, j'espère que ça ne sera pas le dernier concert que je ferai. À partir de ces moments-là, déjà il y a l'espoir d'eux, mais il y a aussi la sensation d'autre chose. Voyez-vous, les coups de timpani, timbale à la fin de la symphonie, c'est paf qui vous brise les os. C'est effectivement le cœur, comme souvent ça a été dit, ça fait tellement mal qu'il s'arrête, mais on ne le voit pas arriver. Il vient tout seul. D'où peut-être que mon père me disait, j'espère que ce ne sera pas mon dernier concert. Mais ça vient comme un coup dans le cœur.
Alors moi j'espère que l'enregistrement de cette 6e symphonie de Mahler nous parviendra bientôt, parce qu'il n'est pas encore disponible. Alors aujourd'hui, pour terminer, je voudrais revenir au 19e siècle, pardon, avec un magnifique enregistrement de la première symphonie de Brahms, dont je vous propose d'écouter le début du deuxième mouvement. Pour terminer cette émission Tous Mélomanes sur RCF Notre-Dame, nous écoutions le début du deuxième mouvement de la première symphonie de Johannes Brahms par le National Philharmonic Orchestra, dirigé par Carlos Paita, là encore un disque du Palais des Dégustateurs. Alors merci à Alexandre Paita et à Éric Rouillet.